Alors, ça s'appelle « Amour, sexualité et démence en milieu d'hébergement, réflexion pour guider les pratiques ». Ça, c'est un rapport qui vient d'être remis à la ministre des Aînés, Marguerite Blais, parce que là, on se rend compte qu'il faut se donner des règles pour encadrer la vie sexuelle de nos personnes en CHSLD. Et on va aller rejoindre la docteure Sophie Jiang, qui est co-chef adjointe à l'hébergement au CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Bonjour, docteur Zhang.
Oui, bonjour Bernard.
Vous dirigez, c'est une dizaine de CHSLD, n'est-ce pas?
Effectivement, 15 CHSLD.
Bon. Et alors, faites-nous un petit peu le portrait, par quelques exemples très concrets, de mettons des exemples, des anecdotes, tiens, de rapports ou de vie sexuelle dans les CHSLD. C'est spécial,
On voit de tout. Donc, dans le fond, il y a, par exemple, il y a des couples qui habitent ensemble en CHSLD. La plupart du temps, s'ils font la demande, on essaie de leur donner une chambre double qu'ils peuvent partager. Mais il y a certains couples qui ne désirent pas habiter dans la même chambre. Donc, parfois, vont avoir chacun leur chambre. Mais quand ils le désirent, peuvent être en chambre double. On a aussi des patients qui ont un trouble cognitif qui peut être plus avancé, qui vont exprimer des besoins affectifs ou sexuels, et parfois ça se présente à travers là, des gestes avec un autre patient qui habite dans le même centre, sur la même unité. Puis on a aussi des fois des patients qui sont seuls, qui sont pas en couple et qui ont des besoins sexuels, donc qui vont parfois vouloir regarder des films, par exemple, de type pornographique, ou qui vont s'engager dans des activités de masturbation, par exemple, quand ils sont seuls dans leur chambre. Donc, c'est tous des exemples de choses qui peuvent arriver en CHSLD.
OK. On fait quoi? Mettons qu'on a un couple. Ils sont ensemble. Oui. Il y en a un des deux qui a un problème, par exemple, cognitif, qui commence à développer de l'Alzheimer ou qui a développé de l'Alzheimer. Et qui soudainement éprouve une attirance physique pour quelqu'un d'autre dans le CHSLD?
Oui, c'est déjà arrivé. dans le fond, le plus important pour nous, l'enjeu éthique le plus important, c'est le consentement. Donc, on veut que s'il y a des activités de type affectif ou sexuel, il faut que ça soit deux personnes qui sont consentantes. Donc, des fois, c'est délicat parce que quand on a un trouble neurocognitif, des fois, notre aptitude à pouvoir consentir est brouillée. Il y a des cas qui sont très clairs où les personnes sont très lucides et peuvent choisir pour elles-mêmes. Ça, on se pose pas de questions. Ensuite, il y a des cas très clairs où la personne n'a vraiment plus aucune aptitude, elle n'a plus aucune possibilité de s'exprimer. Donc, vraiment une aptitude profonde, une incapacité de s'exprimer. Donc, dans ces cas-là, non plus, la question ne se pose pas. Mais il y a beaucoup, beaucoup de zones grises en CHSLD où les personnes sont entre ces deux pôles-là. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il faut prêter attention à justement des signes qu'il pourrait avoir une personne qui est mal à l'aise, qui n'est pas d'accord. Donc, il faut vraiment que s'il y a des activités qui se poursuivent, le personnel l'encadre d'une façon à s'assurer qu'il n'y a personne qui a de préjudice là-dedans. Donc, par exemple, s'il y a une personne dans le couple qui décide d'avoir qui a des gestes sexuels ou affectifs avec un autre résident, c'est sûr que la façon de dénouer le tout, c'est vraiment en équipe avec la famille, avec le couple, avec le personnel, de voir c'est quoi la meilleure solution pour tout le monde. Il y a des fois où c'est arrivé où les gens étaient compréhensifs parce que la personne a un trouble cognitif, c'était pas par malice, c'était pas par méchanceté. Il y a d'autres fois où ça a causé des malaises, mais c'est toutes des choses qu'on essaie de dénouer en équipe.
Donc, comme vous l'avez raconté dans l'entrevue que vous avez donnée à Jessica Beauplat, c'est déjà arrivé qu'une personne qui est en couple, elle se trouve en CHSLD, le monsieur, lui, est encore à domicile, sa dame est en CHSLD, elle a développé un problème cognitif, et là, elle tombe en amour, si on peut dire, avec un autre homme qui est en CHSLD, mais elle est encore en couple avec le monsieur qui, lui, est resté à maison. Je veux dire, c'est pas évident à gérer, cela, là.
C'est sûr que c'est pas facile pour, par exemple, le conjoint. C'est sûr que ça peut être quelque chose que la personne vit mal ou se sent blessée là-dedans, mais on essaie vraiment de faire beaucoup d'éducation par rapport au fait que ce n'est pas nécessairement intentionnel, la personne ne veut pas lui faire du mal, mais vraiment avec une perte de mémoire qui parfois est très sévère, c'est des choses qu'on peut arriver, qu'on peut voir arriver. Puis, je vous dirais que la plupart du temps, quand on fait beaucoup d'accompagnement et d'éducation, les gens finissent par comprendre et voient pourquoi là, ça arrive et ça ne devient pas là, une situation très, très problématique. Puis, je n'ai pas mentionné aussi dans tous les exemples que j'ai donnés, qui est la majorité de nos patients qui n'ont pas de vie sexuelle. Et ça aussi, ça fait partie de la réalité. Donc, oui, c'est un mythe que les personnes âgées sont tous asexuées. Ça, c'est pas vrai. Il y a des personnes qui ont encore beaucoup de désirs et de besoins sexuels, mais il y a aussi beaucoup de personnes en âge avancé et avec des troubles cognitifs qui n'ont pas de désir et de ce besoin-là.
Mais vous diriez, avec votre expérience, puis vous supervisez, vous l'avez dit, 15 CHSLD, est-ce qu'on peut dire quoi? C'est un résident, une résidente sur cinq qui a encore des besoins sexuels ou est-ce que c'est trop une sur cinq?
Mm-hmm. Ben, en fait, ça dépend parce que chaque CHSLD a des clientèles différentes. Puis moi, parmi mes 15 CHSLD, il y a un CHSLD qui est pour plutôt une moyenne d'âge plus jeune. Et là-bas, il y a énormément de patients qui ont ce besoin-là. Justement, ce CHSLD-là, il y a une chambre qui est aménagée, qui est une chambre d'intimité, justement pour répondre à ces besoins-là. Par contre, ailleurs, quand c'est vraiment des CHSLD classiques là, avec des personnes âgées en perte d'autonomie, c'est sûr que le pourcentage devient moindre. Je ne peux pas vraiment vous donner un chiffre parce que je ne le sais pas, mais je vous dirais que sur chaque unité de vie qui est à peu près 20 à 30 patients, il y en a quelques-uns sur chaque unité qui pourraient avoir ces besoins-là.
Alors, en terminant, Dr Zhang, il faut se donner des règles maintenant? Il faut, ce n'est tellement plus épisodique que là, il faut se donner un cadre?
Je pense pas que c'est des règles, mais plutôt de l'éducation et de la sensibilisation de toutes les parts, du public, des familles, des membres du personnel, parce que des fois, ça peut causer une certaine gêne ou inconfort chez le membre de personnel, et ça ne devrait pas parce que ça fait partie des besoins naturels de toute personne. Donc, je pense que c'est plus l'éducation, de la formation qu'on a besoin.
Écoute, en tout cas, il y a quelques années, c'est fascinant, hein, Dr Zhang, il y a quelques années, on ne parlait pas de ça, hein, la sexualité chez les aînés. Tu sais, moi, j'ai quand même quelques années de journalisme derrière la cravate, là. Puis c'est vraiment un thème qui est apparu il y a quelques années de ça. Et là, on se rend compte que c'est une réalité qui existe d'abord et qui est complexe à certains égards. Vous avez parlé de la question du consentement. Tu sais, à partir de quand est-ce que quelqu'un, par exemple, qui est atteint de l'Alzheimer peut vraiment donner son consentement à une relation sexuelle? C'est des questions sur lesquelles on doit absolument se pencher. Dont il faut parler comme on vient de le faire. Je rappelle que vous êtes co-chef adjointe à l'hébergement au CIUSSS Centre-Sud de l'île de Montréal, Dr Sophie Zhang. Ça a été un plaisir. Merci.
Merci beaucoup à vous.
Au revoir. Au revoir. Après la pause, on continue un petit peu dans le même thème. On va parler à un chercheur, un neurologue, qui va nous dire que la science avance pour mieux dépister l'Alzheimer et donc, on l'espère, pour peut-être la traiter, à tout le moins pour en ralentir la progression. Dans un instant.